Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet trop peu connu je pense en France, les grandes cours européennes et plus précisément les cours allemandes au XVIIIe siècle. C'est un sujet comme je disais pas très connu mais nous avons avec nous dans notre studio une grande spécialiste. Bonjour chère Diane Elisabeth Avaux.
Bonjour madame.
Vous êtes historienne, diplômée d'études supérieures de l'école du Louvre et je pense que les étudiants de notre école pour les arts à Chartres vous connaissent très bien. Vous êtes aussi une spécialiste maintenant de la Russie, des relations franco-russes de Pierre le Grand à nos jours car vous avez assuré un cours, justement un cycle de plusieurs cours à Chartres dans le cadre de l'école de Chartres pour les arts organisée par le Centre international du vitrail. Donc aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir les cours allemands du XVIIIe siècle et vous allez parler donc d'abord des particularités de ces cours qui sont des cours électoraux. Vous allez nous expliquer ce que c'est. On va passer un peu au modèle Louis XIVien. On constatera que avec l'immigration des protestants, des huguenots, le modèle Louis XIVien va se retrouver en Allemagne, être adopté par les princes électeurs, entre autres. Et puis, nous terminerons, je crois, avec une pièce musicale magnifique dont vous allez nous parler également. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je vous donne tout de suite la parole. Les cours électorales, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs qui vont découvrir peut-être avec vous ce sujet?
Alors, ce qui est intéressant dans les cours allemandes du XVIIIe siècle, c'est qu'elles ont deux particularités qu'on ne retrouve pas du tout pour la France. Elles sont déjà extrêmement nombreuses, puisque l'Allemagne n'est pas encore unifiée, mais présente une multiplicité de petits États. Donc on a plus de 300 cours souveraines qui se réunissent autour de leur prince. Et ces cours peuvent être de plusieurs natures. Tout d'abord, elles peuvent être laïques, donc dirigées par un landgrave, un margrave, comte, duc ou prince. Mais encore, elles peuvent être ecclésiastiques, dans le cadre d'un évêché ou d'un archevêché. Et secondement, elles peuvent être électorales. Donc on peut avoir des cours laïques électorales, des cours laïques non électorales, des cours ecclésiastiques électorales ou non. Donc des particularités tout à fait propres au territoire allemand germanique de ce XVIIIe siècle.
Alors ces cours électorales, qui sont celles des princes électeurs, sont élus de quelle façon ? Ou le souverain est élu par qui ?
Donc ce collège électoral de ces princes allemands a été désigné au XIVe siècle par l'empereur Charles IV de Luxembourg qui nomme 7 de ces princes souverains d'Allemagne pour élire ensemble, donc à la majorité, c'est-à-dire à 4 voix minimum, le nouvel empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc au départ, il s'agit de 4 princes laïcs et de 3 ecclésiastiques. Donc les 4 laïcs sont le comte palatin du Rhin, qui sera remplacé ensuite au XVIIe siècle, pour faire simple, par le duc de Bavière, les deux états étant sous la coupe de la même famille bavaroise des Wittelsbach. Deuxièmement, le margrave de Brandebourg, qui appartient à la famille très célèbre des Hohenzollern, et le nom le plus évident pour la famille reste Frédéric II de Prusse. Troisièmement, le duc de Saxe. Quatrièmement, le roi de Bohême. Puis, à partir de la fin du XVIIe siècle, un cinquième prince laïque qui est le duc de Hanovre, avant qu'il n'accède à la couronne d'Angleterre avec Georges Ier. Quant au prince ecclésiastique, toujours désigné au XIVe siècle par Charles IV pour élire l'empereur, ils sont 3 jusqu'à la fin de l'Empire au début du XIXe, les archevêques de Mayence, de Trèves et de Cologne. Et disons déjà que l'archevêque de Mayence, parmi tous ces princes électeurs, a la prééminence.
Vous avez parlé donc justement de cette multiplicité des États en Allemagne. Et puis, on a dit que vous allez nous parler du modèle Louis XIVien qui va être introduit en Allemagne. On sait que Montesquieu a écrit que Versailles a ruiné justement tous les princes d'Allemagne par ce souci d'imitation. Est-ce qu'on retrouve donc ce souci d'imitation dans toutes les cours en Allemagne à cette époque-là ?
À peu près toutes, oui, dans la mesure où ces cours sont très proches, les États sont souvent très, très petit, à l'exception du duché de Bavière, qui territorialement est beaucoup plus important. Et donc, il y a une vraie émulation entre tous ces États qui fait que si le voisin imite Louis XIV, et donc le faste, la gloire de Louis XIV, les voisins qui l'environnent ne peuvent faire moins. Donc, chacun de ces princes allemands du XVIIIe va vouloir bâtir un somptueux palais, son propre Versailles. Et pour cela, plusieurs de ces princes allemands vont justement faire appel à un architecte français qui viendra en Allemagne ou qui enverra des plans depuis Paris. Et chacun de ces princes va, entre guillemets, jouer à Louis XIV en paradant et en imitant du modèle français l'architecture, la musique, les spectacles, bien sûr, mais aussi le mode de vie par l'étiquette, les costumes, le langage et jusqu'aux méthodes de gouvernement. Donc là, un modèle qui n'est pas uniquement, évidemment, relayé par les cours allemandes, mais particulièrement fort dans les cours allemandes. Donc on y retrouve ce rayonnement de la culture française qui, grâce à Louis XIV, est promue au rang de modèle.
Comment est-ce que les princes allemands ont pu prendre connaissance justement de ce modèle ? Ils ont sans doute voyagé.
Tout à fait.
Et
oui.
Il faut peut-être effectivement parler aussi de la révocation de l'édit de Nantes qui va contribuer à l'émigration d'abord massive des Huguenots qui rechercheront refuge en Suisse et dans d'autres pays limitrophes et qui vont aussi arriver au cours des princes en Allemagne.
Alors effectivement, les princes voyagent beaucoup, souvent quand ils sont jeunes ou jeunes souverains, et se rendent à Versailles, car ça devient un passage presque obligé pour tout prince qui se respecte. Et les artistes voyagent également, de même que précisément ces Huguenots français, chassés du territoire par la révocation de l'édit de Nantes en 1685, et qui se réfugient beaucoup dans le nord de l'Allemagne, dans ces régions protestantes, et on les retrouve particulièrement justement en Brandebourg, chez le père de Frédéric II de Prusse, ou en Saxe, dont nous allons parler aussi dans un instant.
Je crois que vous nous avez préparé une belle pause musicale. Voulez-vous introduire peut-être la pièce que nous allons écouter ?
Alors, pour rappeler que justement, en Saxe, particulièrement, le répertoire musical français de Louis XIV est toujours à l'honneur et à l'affiche des fêtes et des divertissements de la cour, je vous propose d'écouter un extrait d'un opéra de Marin Marais, Alcyone, assez connu, qui date de 1706, avec une marche, donc tout à fait dans l'esprit français Louis XIVien, et que l'on pouvait entendre dans ses cours allemandes dès le XVIIIe siècle.
Nous voilà à nouveau dans le studio de Radio Grand Ciel avec Diane Elisabeth Avaux, historienne et spécialiste des grandes cours européennes au XVIe et jusqu'au XVIIIe siècle et surtout aussi spécialiste de la Russie, quoique très jeune historienne, je puis encore le dire. Et nous étions en train de parler des cours allemandes au XVIIIe siècle, sujet moins connu en France. Et Diane Elisabeth Avaux, depuis plusieurs années déjà la responsabilité de cours qu'elle donne à l'école de Chartres pour les arts organisée par le Centre international de Vitrail, école ouverte à toutes les personnes qui s'intéressent à ces cours européennes et aux relations franco-russes. Donc, peut-être nous pouvons parler maintenant de l'introduction du modèle Louis XIVien, justement, chez les lecteurs de Saxe-Auguste Lefort, très connu sans doute en France, ne serait-ce que grâce à cette magnifique exposition réalisée en 2006 sur les splendeurs de la cour de Dresde. Donc, chère mademoiselle Lavaux, je vous laisse la parole pour que vous nous parliez d'Auguste Lefort.
Alors bien sûr, ceux d'entre vous qui ont pu aller à Versailles voir l'exposition connaissent bien le sujet. L'exposition le détaillait dans ses différents aspects. Et cet Auguste de Lefort, roi de Pologne, était aussi donc prince électeur de Saxe sous le nom de Frédéric Auguste Ier. Et fasciné par Versailles, où il s'est rendu deux fois, il fait de Louis XIV un modèle évident qu'il ne cherche pas à cacher. Alors, comment Auguste II va manifester cette référence à Louis XIV ? Eh bien, par plusieurs moyens. Tout d'abord, comme Louis XIV, il est le centre d'une cour très raffinée qui vit au rythme de grandes fêtes. On a dit tout à l'heure que la musique française de Louis XIV était justement interprétée très fréquemment à la cour de Dresde. Et pour l'un des spectacles de la cour, Auguste II s'est présenté arborant un masque de soleil, qui était bien sûr à l'exposition de Versailles, et qui est une filiation presque ouverte depuis la figure solaire de Louis XIV, le jeune roi soleil, jusqu'à Auguste II. Ensuite, comme Louis XIV, Auguste II est bâtisseur. Il fait appel à plusieurs artistes français pour construire ou décorer ses demeures, des noms assez peu connus. Il faut citer tout de même l'architecte Raymond Leplat ou le peintre Louis de Sylvestre, parmi d'autres. Comme Louis XIV, Auguste II est collectionneur, et justement ce Raymond Leplat va acheter pour lui un grand nombre d'œuvres. Et Auguste II rassemble peintures, armes, orfèvrerie, ivoire extraordinaire ou cristaux très précieux. Comme Louis XIV, il développe la production artistique de son État pour l'inscrire dans une dynamique culturelle nouvelle. Et c'est la naissance de l'enfant chéri de la Saxe, la très fameuse manufacture de porcelaine de Meissen. Comme Louis XIV, Auguste II fait réaliser un mobilier d'apparat en argent massif, puisqu'il se rend à Versailles et qu'il peut admirer ce mobilier dans tout son éclat, qui a fait l'objet lui aussi d'une exposition, cette fois l'année dernière en 2008, puisque le mobilier Louis XIV a disparu, mais que celui que...
Fondu en raison de manque d'argent pour faire toutes ces guerres.
Dès 1689, donc Auguste II l'a vu in extremis en 87 et 88, et tellement impressionné par ce mobilier, il cherche à en posséder un semblable. Enfin, comme Louis XIV à Versailles, Auguste II fait de Dresde une capitale européenne, titre qu'elle a encore aujourd'hui et de façon très justifiée.
Donc, effectivement, Dresde est devenue, en raison de son patrimoine qui imite à l'époque la cour de Versailles, devenue une source de connaissances pour la vie des cours en Europe, parce qu'on a pu garder beaucoup de ces pièces qui ont été restituées après la Deuxième Guerre mondiale, après les pillages. Donc, c'est un patrimoine extraordinaire. Dresde, qui est évidemment associé au bombardement de février 1945, mais qui a fêté en 2006, en même temps, les 800 ans de sa fondation. Donc, c'est l'Elbe, la Florence de l'Elbe, magnifique ville placée au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO sur la liste, tout comme la cathédrale de Chartres. Donc, on parle de ce faste tableau joyau argenterie bronze, donc une extraordinaire richesse. C'est une capitale culturelle, donc très réputée et très admirée, à nouveau accessible grâce à la chute du mur en 89. Et peut-être pouvez-vous nous parler un peu du palais du Zwinger, qui a été d'abord construit rien que pour les fêtes de la cour.
À l'origine, effectivement, c'était un palais qui avait une vocation éphémère pour accueillir les grands tournois à caractère courtois des courtisans. Mais très vite, Auguste II demande à son architecte d'amplifier les bâtiments et de les reconstruire, surtout en matériaux pérennes, en pierre, en grès très précisément, pour abriter une orangerie. Et ensuite, les collections qui commencent à prendre une grande ampleur. Donc, le Tsuinga porte son nom depuis une place qui était restée libre, un espace qui était resté libre entre les murs d'enceinte de la ville de Dresde. Et Tsuinga signifie donc « entre les murs ». Et le palais a donc repris le nom de cet espace
réduit. Enfin, qui était réduit par et délimité par ces, voilà, ces constructions déjà existantes.
Qui était compris entre les murs de la ville. Et ce palais, aujourd'hui, donc, s'organise toujours autour d'une cour, en plusieurs galeries. Et ces galeries abritent aujourd'hui un ensemble de 5 musées, dont les galeries de peinture, de collection d'Auguste II, puis de son successeur Auguste III, mais aussi surtout la très fameuse voûte verte, dite en allemand la Grünes Gewölbe, et qui était un écrin de miroirs et de dorures réalisé expressément pour recueillir les collections les plus précieuses d'Auguste II. Alors elles ne se trouvaient pas à l'origine au Tsuinga, elles étaient bien à Dresde, mais dans le palais de la ville de Dresde. Et elles ont été transférées au XIXe siècle, donc dans une de ces galeries du Tsuinga, où on peut aujourd'hui toujours les admirer.
Je crois que vous nous avez préparé également une pièce musicale pour nous replonger dans l'ambiance des fêtes des cours au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que vous allez nous faire écouter ?
Alors, je vous propose d'écouter une pièce de Bach, donc une allemande tirée de sa suite française numéro 4, et on reste dans le domaine franco-allemand. Donc, il s'agit d'une pièce de cour quotidienne, hein, comme on pouvait l'entendre interprétée par les courtisans ou les musiciens de la cour, et qui nous permettra d'enchaîner avec la prochaine œuvre de Bach.
Sur les ondes de Radio Grand Ciel, avec notre invité d'aujourd'hui dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne, Diane Elisabeth Avo, historienne qui nous parle des cours allemandes au XVIIIe siècle. Nous avions parlé d'Auguste le Fort, fort sans doute parce qu'il était très grand, mais fort parce qu'on lui attribuait aussi plus de 360 enfants, pas tous naturels évidemment. Alors, on a dit qu'Auguste Lefort était aussi roi de Bohême, donc il s'est converti au catholicisme.
Pologne.
Oui, il s'est roi de Pologne et il s'est donc converti au catholicisme. C'est le problème qui s'est posé avec Henri de Navarre pour pouvoir être sacré roi de France. Et vous vouliez terminer cette très intéressante émission avec une pièce musicale également, l'offrande musicale que Bach va composer à la fin de sa vie à Potsdam. Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement comment est née cette pièce très, très bien connue, très célèbre ?
Alors, l'offrande musicale est une œuvre tout à fait à part. On dit d'elle que c'est le testament musical de Bach. Il l'a composé effectivement peu de temps avant sa mort, puisqu'il est mort en 1750, et qu'en 1747, il est invité par Frédéric II de Prusse, prince électeur de Brandebourg, à Potsdam, près de Berlin, pour une rencontre mémorable tant dans l'histoire de l'Allemagne que dans l'histoire de la musique. Car cette rencontre est bien évidemment une rencontre entre deux grands hommes, très célèbres déjà, mais aussi entre deux musiciens. Bach se rend effectivement à Potsdam le 7 mai 1747 et lors de cette visite, Frédéric II lui donne l'occasion de créer son œuvre probablement la plus aboutie, la plus travaillée. En lui faisant écouter un thème, Frédéric II demande au maître d'improviser, car Bach était depuis très longtemps réputé pour son talent d'improvisateur, mais ne se contentant pas de cette simple improvisation devant le roi, 2 mois plus tard, début juillet, il lui fait parvenir à Potsdam un courrier comportant un ensemble de pièces qui retranscrivent ses improvisations à partir du thème royal qui est donc largement redéveloppé, cité à travers les pièces qui composent cet ensemble intitulé « Musicalisches Opfer », c'est-à-dire « Offrande musicale », le cadeau du vieux cantor de Leipzig au puissant roi de Prusse.
Alors, cette pièce dédicacée au roi de Prusse va donner à Bach l'occasion de créer un acrostiche célèbre sur le mot Ritscherkar. Et Ritscherkar, c'est une pièce musicale qui vient avant la fugue. Il va donc transcrire en latin la phrase suivante, la musique faite par ordre du roi, et le reste résolu par l'art du canon. Ricis iuso cantio et reliquae canonica arte resoluta. Et cette offrande musicale, donc, c'est une pièce qui sera dédicacée au roi de Prusse, qui lui-même est mélomane, quoique, comme on dit, piètre instrumentiste. Il jouait de la flûte et il voulait mettre à l'épreuve le grand Bach qui lui rendait visite. Est-ce que vous voulez nous faire écouter tout de suite cette pièce ? Si vous voulez, elle sera un peu plus longue et on terminera peut-être par un résumé sur
ce que nous aurons entendu.
Très bien.
Donc, il s'agit précisément de ce Ritscherkar à 6 voix qui est le moment le plus important dans la composition, le plus abouti de toute l'œuvre. Donc, on va en entendre à peu près 3 minutes. Thank you. donc nous allons poursuivre tout à l'heure avec l'écoute de l'offrande musicale. Je voulais quand même rendre hommage ici à Gustav Leonhard qui est l'interprète, car ce Richard Carr à six voix de l'offrande musicale est un vrai morceau de bravoure pour les clavecinistes qui du coup s'y risquent assez rarement. Donc nous avons dit le Richard Carr est une forme ancienne de la fugue, et Bach devant Frédéric II avait refusé d'improviser à six voix. Il improvisa à trois et quatre voix, mais non pas à six. Pourtant, studieux comme il était, il s'acquitte de ce travail chez lui et envoie donc la partition à Frédéric II. Il nous montre donc dans ce Richard Carr plus précisément tout son savoir. C'est pourquoi on parle de testament musical. En quelque sorte, Bach nous montre tout ce qu'il sait faire, tout son génie, et la concentration contrapuntique de la fugue y est à son plus haut degré. C'est une œuvre véritablement intellectuelle et mathématique, comme jamais Bach n'en avait composé encore. Alors avec cette offrande musicale, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que Bach endosse le costume de courtisan, puisque cela a été dit tout à l'heure, par la dédicace, il associe jeu de mots et jeu de notes en l'honneur du puissant roi de Prusse, Frédéric II, dont il n'oublie pas le goût pour la musique et la pratique de la flûte. L'offrande musicale comporte une sonate en trio pour flûte, pas uniquement pour flûte, on peut jouer la partie de dessus à un autre instrument, mais Bach mentionne expressément la flûte en hommage au roi. Par exemple, dans le cinquième canon, qui appartient donc à cet ensemble d'œuvres de l'offrande musicale, la partition est annotée, puisse la gloire du roi s'élever avec le mouvement ascendant de modulation, ce qui nous montre là de manière presque amusante ce vieux Bach sur ses jours finissants qui se concentre véritablement sur une composition sans oublier l'à côté et la nécessité de plaire au roi qui l'avait invité.
Merci beaucoup Diane-Elisabeth Avaux. On peut vous écouter à Chartres, dans l'école de Chartres pour les Arts, au Centre international de Vitrail, au numéro 02 37 21 65 72, des informations pour s'inscrire à cette école. Merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Merci beaucoup et au revoir, chers auditeurs de Radio Grand Ciel.
Merci.